avec Alliance Vita au service des plus fragiles.
Chers auditeurs, après quelques mois de répit, suite à la dissolution de l'Assemblée nationale, le sujet de la fin de vie revient en force et le niveau d'alerte est à son maximum. Alors je vous rappelle qu'il y a désormais deux propositions de loi. L'une est consacrée au renforcement des soins palliatifs et d'accompagnement et l'autre vise à autoriser l'euthanasie et le suicide assisté. Le texte de la prétendue aide à mourir est désormais rebaptisé pudiquement « proposition de loi relative à la fin de vie », comme si l'euphémisme des mots pouvait adoucir la violence des faits. C'est le député Olivier Falorni, proche de l'ADMD, une association qui milite pour la mort administrée, qui porte à nouveau ce texte. Et dans sa présentation, il pose la question de façon dialectique. Que veut dire vivre quand vivre, c'est souffrir sans espoir de guérison? Alors bien sûr, il parle d'écoute, d'humilité ou de dernier recours, mais il prône avec acharnement, au nom de la liberté, le droit de disposer de sa mort. Et c'est effectivement cette radicalité qui s'exprime quand on examine le texte. Alors vous l'avez sans doute entendu ces derniers jours dans les médias, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale vient de commencer l'examen des deux propositions de loi après avoir auditionné, il y a quelques jours, plusieurs associations, dont Alliance Vita, qui par la voix du docteur Olivier Trédan, qui est cancérologue, et de Tuc Dualderville, notre porte-parole, a tenté de montrer que cette loi est inacceptable, qu'elle promeut l'abandon et l'individualisme forcené, et qu'elle aurait des conséquences désastreuses pour tous nos concitoyens, et d'abord, surtout, pour les plus fragiles. Il faut le dire, aucune législation au monde n'est encore allée aussi loin d'emblée. La légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie sont envisagées avec des critères extrêmement larges. Par exemple, ce texte prévoit qu'une personne qui demanderait la prescription d'un produit létal devrait être atteinte d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée. Autrement dit, que la maladie peut conduire au décès. Mais on ne parle plus de court ou de moyen terme. Ce critère est bien trop vague, car grâce au progrès de la médecine et de la cancérologie en particulier, la plupart des cancers métastatiques, par exemple, peuvent être contrôlés pendant plusieurs années. Alors comment pourrait-on répondre hâtivement à une demande de mourir alors que justement le temps à vivre pour la plupart des patients est si incertain? Par ailleurs, un deuxième point, le patient qui demande à mourir devra présenter une souffrance psychique ou psychologique qui est soit réfractaire au traitement, soit insupportable selon la personne lorsqu'elle a choisi de ne pas recevoir ou d'arrêter de recevoir un traitement. Cela ne concernerait donc plus uniquement les patients qui endurent une souffrance que la médecine ne parviendrait pas à apaiser. Les soignants prenant en charge des malades chroniques et graves savent que les souffrances sont éminemment fluctuantes dans le temps et nécessitent des réévaluations régulières. Une souffrance dite insupportable est tout sauf un critère objectif et tangible. Alors l'utiliser comme critère de décision n'est pas acceptable car il fermerait tout dialogue avec les soignants, la famille et les proches. Un troisième point d'alerte, c'est que la procédure en fait serait simple, voire carrément expéditive, à la discrétion d'un seul médecin. La collégialité qui est annoncée n'est qu'apparente avec la consultation imposée d'un confrère qui n'a pas forcément à examiner le patient. Le médecin reste totalement libre de sa décision, l'euthanasie ou le suicide assisté pouvant être administrés sans délai. C'est exactement la situation de toute puissance médicale que rapportent les médecins des Pays-Bas dont les patients sont brusquement happés par des filières spécialisées dans l'euthanasie. C'est donc une loi de rupture qui est proposée. Elle induirait inévitablement une méfiance chez les malades fragilisés par une maladie chronique et un doute sur leur droit de vivre. Au fond, ce texte contredit la devise nationale dont il se revendique, liberté, égalité, fraternité. Alors la liberté tout d'abord, une liberté n'est authentique que quand elle s'exprime en connaissance de cause. Ce n'est pas le cas ici, car les patients concernés subissent des pressions qui dénaturent leur liberté. La pression de la souffrance mal prise en compte ou encore la pression de la société qui les juge inutiles, pesants ou coûteux. Il faut ajouter que la mort administrée s'imposerait aux proches sans recours possible, aux pharmaciens et aux établissements de santé sans clause de conscience, et à toute l'équipe soignante empêchée d'accompagner un patient. Pour eux tous, la liberté devient liberticide. Toute contestation serait par ailleurs interdite, toute opposition muselée par un délit d'entrave passible de 1 an de prison carrément. Il ne manque plus qu'un ministère de la vérité pour décréter ce qu'on peut dire ou pas, ce qui est vrai ou ce qui est faux. Après la liberté, c'est l'égalité aussi qui est bafouée. En effet, pour des personnes vivant en situation d'isolement, de précarité sociale, dans des déserts médicaux, sans accès aux soins palliatifs, eh bien pour elles, le suicide assisté ou l'euthanasie s'imposerait par défaut de solidarité. Il faut être lucide sur ces discriminations avec en tête l'exemple canadien. Des personnes souffrant de maladies évolutives demandent l'euthanasie faute de soutien approprié. Et toujours au Canada, la majorité des personnes euthanasiées ont de faibles revenus. Et au final, c'est donc la fraternité qui en pâtit. Peut-on parler de fraternité quand la prévention du suicide devient optionnelle ? Peut-on parler de fraternité quand on désigne des catégories de patients éligibles au suicide ou à l'euthanasie ? Au lieu de dire « on sera là pour prendre soin de vous jusqu'au bout, car votre vie a du prix », cette offre impose une question qui inverse le sens de la fraternité. N'est-ce pas le moment de partir ? Vous avez fait votre temps. Alors l'examen de cette proposition de loi et de celle dédiée aux soins palliatifs est annoncé les semaines du 12 et 19 mai prochains dans l'hémicycle. Que le débat parte d'une telle base ne peut que confirmer l'état de vigilance absolue que cette perspective suggère. La France légaliserait d'emblée un combo euthanasie-suicide assisté facilement accessible sur des critères aussi larges qu'invérifiables et par là même sans qu'un système de contrôle soit en réalité possible. Lever l'interdit de donner la mort à un patient, élément clé de toute déontologie médicale, serait d'autant plus injuste que notre système de santé traverse une crise multiforme qui nous fragilise tous. Alors face à ce rouleau compresseur législatif, Alliance Vita entame une nouvelle phase de mobilisation avec des opérations de tractage et d'information pour alerter le plus de Français possible, réclamer la priorité aux soins et rappeler justement que la mort n'est pas en soin. Puis, tous ceux qui s'opposent à ce projet funeste sont appelés d'une part à écrire à leurs députés et d'autre part à rejoindre une mobilisation dans leur ville le lundi 12 mai en début de soirée, jour de l'ouverture des débats à l'Assemblée nationale. Alors ouvrez grand vos oreilles et tenez-vous prêts, je vous en dirai plus lors de mon prochain passage sur cette antenne. À très bientôt.
Retrouvez toute l'actualité d'Alliance Vita sur le site alliancevita.org.